Vous écoutez France Culture.
Le journal était signé Amélie Bonté. Bonjour à toutes et à tous.
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître, c'était Jacques de Rogy, qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Bienvenue à tous dans les coulisses de l'information avec aux manettes ce matin Kevin Lebars, Vincent Abouchard et Mathias Mégy et avec vous pour tous vos commentaires sur franceculture.fr. Une tour Eiffel dans la brume, des gros plans de pots d'échappement et des automobilistes décontenancés. Pendant une semaine et jusqu'à mardi matin, les médias ont un peu tourné en boucle sur l'épisode de pollution aux particules fines qui a touché Paris et sa région avec un pic de couverture médiatique lors de l'instauration de la circulation alternée lundi. Question, les médias en ont-ils fait trop ou pas assez? Ont-ils transformé la circulation alternée en gadget ou ont-ils au contraire fait preuve de pédagogie sur la nécessaire lutte contre la pollution atmosphérique? Pour en débattre avec nous ce matin, Karine Lehouette, rédactrice en chef du magazine Terra Eco, Erwan Benezet, journaliste spécialiste de l'énergie au service économie du Parisien aujourd'hui en France, et Véronique Rebérot, spécialiste de l'environnement à la rédaction de France Culture. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et comme toujours, nous accueillons également l'une des membres de notre cercle d'observateurs des médias ce matin, la sémiologue Mariette Darigrand. Bonjour.
Bonjour.
Et l'homme des images et du multimédia, Éric Chavroux. Bonjour.
Bonjour.
C'est le 123e numéro du Secret des sources sur France Culture.
Ce matin, les Lopez ont eu une mauvaise surprise. Les deux véhicules de la famille sont immatriculés avec des chiffres pairs. Les deux devront rester au garage demain.
Je vais regarder ce que j'ai comme possibilité en termes de transport en bus. Et voilà, donc après, si je ne trouve rien, je pense que j'essaierai éventuellement d'appeler mon travail demain. Et comme j'ai la chance de pouvoir...
Jean-Philippe Coin s'en amuse encore. Ce matin, il a troqué son scooter immatriculé en numéro pair contre sa voiture aux plaques impaires pour être en règle aujourd'hui.
Je trouve ça ironique. Je pollue moins avec mon scooter et aujourd'hui j'ai pris une voiture. Tout seul dans une voiture, je pollue beaucoup plus. C'est ridicule tout simplement.
Paris et ses 22 communes environnantes sont concernées par cette circulation alternée.
Extrait successif de deux reportages d'ouverture des journaux télévisés de 20h, dimanche soir sur France 2, lundi soir sur TF1. Alors c'est vrai que pendant près de 48 heures, ces sujets un peu micro-trottoirs sur les automobilistes touchés par la circulation alternée dans Paris et sa proche banlieue, ces sujets ont quasiment tous fait la une des médias, reléguant à l'arrière-plan dans la hiérarchie de l'information, voire faisant parfois disparaître des journaux, le sujet à l'origine de cette mesure de circulation alternée, la question des moyens nécessaires pour limiter la pollution atmosphérique dans les grands centres urbains. Karine Lehouette et Erwan Benezet, peut-être on va commencer avec vous. Les médias, dans cet épisode, n'ont-ils pas oublié ce que les anglo-saxons appellent the bigger picture, c'est-à-dire le vrai sujet de fond pour se concentrer exclusivement sur le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire le sujet facile de la grogne des automobilistes? Karine Lehouette.
Oui, on a effectivement l'impression qu'on était plus sur des petites anecdotes comme celle-là. Et on voit que on se concentre sur des mesures d'adaptation. Quand on a cette circulation alternée, quand on demande aux enfants de ne pas sortir ou quand on dit aux personnes âgées de se protéger, on est vraiment sur de l'adaptation et on oublie encore une fois ce que vous disiez tout à l'heure, la source du phénomène, c'est-à-dire les problèmes de pollution et ces pics de pollution qui sont importants, mais en plus qui sont presque un épiphénomène dans la pollution ambiante qui, elle, est tout au long de l'année et qui a encore un impact encore plus important sur la santé que ces quelques pics qu'on met en valeur aujourd'hui.
Ce sont les plateaux plus que les pics en fait qui sont importants en termes de santé publique.
Tout à fait. Quand on parle aux épidémiologistes, ils sont très clairs sur le sujet. C'est l'accumulation, c'est l'exposition chronique permanente à cette pollution ambiante qui est la plus nocive pour en particulier les pathologies comme le cancer, comme les maladies cardiovasculaires. Les pics, eux, sont plus problématiques pour les personnes fragiles, les asthmatiques, etc.
Erwan Benezet, de ce phénomène qui a consisté, c'était très typique dans les journaux de lundi, par exemple. On avait donc sujet 1, les automobilistes, sujet 2, les contraventions dressées par les policiers, et puis éventuellement sujet 3, retour à la cause de la pollution, mais pas toujours.
Le problème, c'est que les plateaux de pollution, ils sont constants. Donc, on ne peut pas parler en permanence de pollution. Et il y a un moment, il y a une accroche actue. Et c'est la petite fenêtre qui nous permet de saisir le sujet, de pouvoir le faire passer par rapport à d'autres sujets qui sont eux aussi importants, et de pouvoir le traiter. Le traiter par le petit bout de la lorgnette, par les automobilistes, les pots d'échappement, etc. C'est aussi une manière de capter l'attention. Si on s'en tient qu'à ça, on n'a pas fait le boulot. En revanche, c'est comme un geste quand on veut parler à quelqu'un, on agite le bras, il nous regarde, et puis là, on entame la conversation. C'est une sorte de fonction fatigue. Et donc, quand, par exemple, mon quotidien titrait « Respirais-tu ?», si on s'arrête qu'à ça, c'est une petite tournure d'esprit, mais ça ne va pas plus loin. Derrière, il faut après, effectivement, un vrai travail. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, parce que le vrai travail, s'il n'est pas lu, il ne sert à rien.
Avec un vrai risque sur ces journées de circulation alternée, de se retrouver avec presque un média de service, hein, enfin une espèce de roule-roule pas, quoi. Passer par ici, ne passez pas par là, voyez.
On a besoin des informations pratiques. S'en tenir à ça, ça serait vraiment dommage. C'est un moment, le bon moyen de rappeler qu'il y a un vrai problème de pollution atmosphérique aujourd'hui. C'est un moyen de rappeler les chiffres qui ont été donnés en 2012, mais qui, quelques mois après, sont oubliés, ceux publiés par l'OMS, qui parle de 42 000 morts en France. Voilà, en fait, 6 mois après, quand on se rend compte, quand on en reparle aux gens, les gens ont oublié, parce que, bien sûr, il y a d'autres actus qui sont... Donc, c'est un moyen de revenir là-dessus, et c'est important.
Véronique Rebérot, est-ce qu'on n'était pas aussi, face à des médias, en train de redécouvrir la Lune? Parce que, finalement, enfin, je veux dire, il y a quoi? Il y a 200 villes en Europe qui pratiquent maintenant des limitations au trafic automobile. Et puis, tout d'un coup, nous, on est là, on s'excite comme des fous, parce qu'il y a une journée de circulation alternée à Paris. Bah, bon.
On s'excite aussi, parce que ça fait plusieurs jours, effectivement, qu'on vit, vous l'avez dit, là, de nos bureaux, on ne voyait plus la Tour Eiffel. Les conférences de rédaction, les gens vivaient cette pollution, respiraient mal, on agonisait tous, certains n'étaient pas là parce que les enfants étaient malades, donc on attendait aussi qu'il se passe quelque chose, et au bout de quoi, 5-6 jours, le gouvernement décrète cette journée de circulation alternée. Donc on l'attend tous, et on fait ce travail aussi pédagogique. Alors on va voir aussi, moi j'ai trouvé intéressant la famille Lopez qu'on entend au début, je l'ai vu à la télévision effectivement, et monsieur Lopez, c'était intéressant, d'habitude il était complètement désemparé, il n'allait pas pouvoir prendre sa voiture, effectivement ses voitures, les deux étaient malheureusement avec des plaques d'immatriculation père. Et pour la première fois de sa vie, il va sur Internet et il regarde comment, éventuellement, il est déjà résigné, il va rester à la maison, c'est pas possible. Et en fait, il mettait 15 minutes pour aller travailler en voiture. Et là, il découvre, mais c'est une découverte qu'il va mettre 22 minutes en prenant le bus.
Transport en commun. Ouais, voilà. Ce qui donc fait pas une énorme différence
donc
quand
c'est,
même.
Hein. Voilà, il a quand même là découvert quelque chose et peut-être que son comportement va changer.
Mais alors, vous soulevez un autre point dans votre propos liminaire, c'est que finalement, est-ce que c'est pas une réaction très parisianiste? C'est-à-dire, ben voilà, tous les journalistes des médias nationaux, ils habitent Paris ou s'approchent banlieue, donc ils sont concernés, enfin pour l'essentiel, par les mesures de lundi dernier. Donc du coup, ils sont fascinés par cette histoire-là. Mais est-ce que la France, vraiment, elle se fascine autant pour cette histoire-là? Est-ce que ce n'est pas une réaction très parisianiste?
L'importance à accorder... Il n'y a pas que Paris, il y a eu, on a beaucoup
non, mais le traitement médiatique, il a été très sur Paris.
Parce que il y a eu...
Karine Leloy.
Parce que la circulation n'était que là.
Voilà, parce que la circulation alternée a été qu'à Paris. Et puis aussi parce que, même du point de vue du monde entier, on a vu des photos de cette tour Eiffel et je pense que ça a beaucoup marqué les esprits. Et ce qui est rigolo, parce que vous dites, c'était pas que Paris, mais c'était pas aussi que la France. C'était aussi d'autres pays d'Europe. Il y a eu l'Allemagne qui a été touchée, la République tchèque, les Pays-Bas qui ont été touchés par ce nuage de pollution en fait, qui venait de l'Est, ou en tout cas les masses d'air se déplaçaient.
Oui.
C'est pas tout à fait pareil. D'Est en Ouest,
on va en parler après.
Oui,
en parler.
Mais donc voilà, et la France, il y a eu un gros zoom qui a été fait sur la France et sur Paris en particulier.
Non, le parisianisme, non, parce qu'en fait, c'est effectivement pas que Paris, mais c'est effectivement pas que les grandes villes. C'est aussi certaines vallées qui sont complètement polluées par le trafic routier ou le passage. Donc faire du parisianisme, ça ne serait que se focaliser sur Paris ou se focaliser sur les grandes villes. Mais en fait, aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est que la pollution touche aussi les milieux ruraux.
Mais les médias ont fait du pari quand même là. Ils ont fait du pari.
Bah parce qu'on est parti sur la circulation alternée. En fait, la grande erreur, il y a deux erreurs à ne pas commettre pour les médias. La première erreur, c'est le jour où il y a un pic de pollution, c'est ne pas en parler. Ça serait une erreur. Mais la deuxième erreur, c'est que le jour où le pic de la pollution se termine, c'est de ne plus en parler. Et ça serait une deuxième erreur. En fait, il faut revenir dessus et aller plus loin et faire le bigger picture dont vous parliez tout à l'heure.
Kein Fußballspiel und keine Großdemo ist der Grund für den Einsatz der Pariser Polizei, sondern Smog. Seit heute Morgen gilt für Fahrzeuge mit einer geraden Zahl auf dem Nummernschild im Großraum
Sonnensmog,
Paris Fahrverbot.
Dit la télévision allemande ARD avec ce reportage sur les limitations de circulation à Paris, des limitations dont bon nombre d'Allemands sont familiers. C'est vrai qu'une grande partie de la presse internationale a parlé de cette vague de pollution à Paris, ce qui nous renvoie, et on va en dire quand même un petit mot, à un autre ingrédient médiatique qui a favorisé la mise en avant de ce sujet par la presse. C'est un ingrédient tout simple, Éric Chavot, vous qui travaillez chaque semaine sur les images dans Le Secret des Sources. C'est l'ingrédient visuel, mais il est ô combien symbolique et iconique, cette fameuse tour Eiffel invisible.
Mais où est passée la tour Eiffel? Se sont demandés quantité de médias et d'internautes face à ces images. Images du 13 mars en particulier, un Paris aux airs de Pékin, totalement recouvert d'un voile jaune, marron, gris, comme si en fait, les photographes du jour s'étaient concertés pour plaquer un filtre opaque oppressant, tout le contraire des filtres qu'on utilise maintenant sur nos mobiles pour jouer. La ville lumière comme plongée d'un coup dans l'ombre, menacée, son monument chéri, juste perceptible, sa dame de fer, là, volatilisée dans un paysage étouffant. Alors, bien sûr, l'image, on l'a dit, elle a été reprise dans le monde entier, commentée. Et puis, les internautes parisiens, ils ne se sont pas privés eux-mêmes de diffuser sur les réseaux sociaux, en particulier leurs images, en particulier des montages. Et le plus saisissant, justement, c'est un avant-après, un montage donc publié en ligne par Le Monde, avec un outil qui permet de superposer deux photos absolument identiques, prises en l'occurrence à 4 ans d'intervalle. Et avec sa souris, comme ça, on peut balayer et voir exactement l'évolution. Alors, c'est tout à fait choquant, c'est le cas de le dire, c'est le jour et la nuit. Et c'est aussi marquant parce que c'est une technologie qui a été popularisée par le New York Times dès 2010, au moment du tremblement de terre à Port-au-Prince, et puis ensuite pour Fukushima. Et là, du coup, on se pose la question, est-ce qu'on est face à une catastrophe de cette ampleur.
Et on vous mettra bien sûr le lien sur le site internet du Secret des Sources sur franceculture.fr. On va poursuivre notre interrogation sur ce traitement médiatique du pic de pollution à Paris avec une autre forme de questionnement un peu à l'opposé.
Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Jour impair, plaque impair, c'est le slogan à retenir pour les Parisiens et les habitants des 22 villes de la Petite Couronne. Demain matin, dès 5h30, la circulation alternée sera donc appliquée afin de lutter contre la pollution. Qui sera concrètement concerné? Les exceptions et les réactions dans un instant.
L'autre titre du 20h de France 2 dimanche soir, évoquant notamment ces exceptions, ces dérogations accordées aux interdictions de circuler. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous poser cette question-là quand même, parce que parmi ces exceptions, il y avait les journalistes qui, eux, pouvaient circuler librement, plaque pair ou impair. Et donc, si on prend le sujet un peu à brousse-poil par rapport à notre questionnement précédent, on a envie de se dire, est-ce que c'est pas un peu facile de la part des journalistes de donner des leçons de morale sur la circulation aux automobilistes et sur la pollution, quand eux-mêmes, ils ne sont pas contraints par la mesure ? Karine Leloët, Erwan Benezet, bon, excusez-moi de vous déranger.
Ils l'ont pas demandé. Ça serait un peu choquant si je ne sais pas, l'Association française des journalistes, si elle existe, avait envoyé une lettre en disant « Non, on a besoin de bosser, s'il vous plaît. C'est effectivement plus logique que ce soit les ambulanciers, etc. » Après, le jour où c'est arrivé, il y avait plein de gens, enfin, surtout la veille quand on l'a appris, beaucoup des journalistes dans la rédaction, par exemple chez moi, se posaient la question de ce qu'ils allaient faire, ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas forcément au courant de cette mesure. Et puis après, c'était même pour eux complètement anecdotique. La seule idée qu'ils avaient en tête, en dehors de comment venir au journal, c'était surtout comment traiter cette actualité. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse...
Moi, je pense que pareil, pour moi, c'était aussi un peu anecdotique, comme de toute façon, on ne pouvait pas espérer énormément de cette mesure. On était dans une mesure, encore une fois, qui était une mesure de réponse, de réaction. À la limite, l'intérêt de cette mesure était plus de remettre le zoom, le focus sur la responsabilité de la circulation automobile dans cet épisode de pollution. Et c'était important de le faire à un moment, je ne sais pas si on va en parler, où les médias ont un peu aussi tout mélangé sur la responsabilité d'où venaient les émissions, est-ce qu'elles venaient des feux de cheminée,
on
entendait des choses un peu étranges. Donc il y avait quand même quelque chose d'intéressant, après qu'il y ait eu des exemptions, qu'il y ait eu des gens qui... Bon, il y a aussi des gens qui ont triché, il y a aussi des choses qui se sont...
Alors, il y a un autre acteur dans cette affaire, c'est évidemment le gouvernement, globalement la classe politique. Alors, on ne va pas en parler trop en détail, parce que sinon le CSA, en ce jour de veille de scrutin municipal, va nous taper sur les doigts. Mais quand même, est-ce que, en donnant un écho aussi élevé à cette mesure de circulation alternée, est-ce que les médias n'ont pas fait le jeu de la communication politique ? Véronique Robérot ?
Pas forcément. Non, moi je dirais que non, parce qu'on est allé bien au-delà. Je me souviens moi, de la conférence de presse où ils nous annoncent déjà les premières mesures le dimanche, en nous disant... Attendons, on fera rien ce week-end sur la circulation alternée, mais ce sera lundi, donc préparez-vous. Et on sait que il va falloir rendre compte peut-être comment ça va se passer, mais le travail n'est pas là. Le travail pédagogique, il faut qu'on le fasse. Et justement, pourquoi le problème de fond ne sera pas résolu. Donc il va falloir informer comment aller plus loin. Enfin, c'est ce travail-là qu'on a fait. On ne s'est pas simplement arrêté à servir la soupe. On a été beaucoup plus loin, enfin, tous autant qu'on est, je crois.
Alors,
pour les médias, je suis d'accord. Parce que je trouve que j'en reparlais avec un confrère qui s'occupe des mêmes questions et qui disait qu'il y avait eu beaucoup d'angles qui avaient été traités dans notre jargon, donc beaucoup de sujets. En revanche, sur la mesure elle-même d'une journée de circulation alternée, pour moi, c'est vraiment... On est à la limite de la tromperie sur
c'est une opération de com' politique.
Ah, complètement, oui. Ça me fait penser à un magicien qui agite la main droite pour capter l'attention et la main gauche fait son tour. C'est la même chose. Les vraies mesures à envisager, elles sont pas là. La circulation alternée, ça a été dit dans les médias, mais c'est pour que ça fonctionne un tout petit peu, c'est pas une journée, c'est plusieurs jours, peut-être une semaine, pour ne serait-ce que voir un tout petit peu en dehors de toutes les histoires de météo, pour qu'il y ait un impact. Donc là, ça ne servit quasiment à rien. Et effectivement, ça mettait beaucoup de gens dans la panade.
Karine Lelouet ?
Oui, je pense que c'était une réponse. On attendait le gouvernement, on attendait une réaction, un truc un peu symbolique, je pense. Et c'est à ce moment-là que cette annonce a été faite. Je pense qu'on aurait critiqué le gouvernement si aucune mesure n'avait été prise d'importance, puisque ce pic de pollution paraissait plus important que la normale. Mais de la même manière, je pense que c'était une mesurette sans grand impact.
La presse et la pollution à Paris. Gadget médiatique ou effort pédagogique ce matin dans le secret des sources sur France Culture. Comme toujours, vous n'hésitez pas, vous commentez, vous critiquez, vous complétez sur franceculture.fr. Et comme toujours également, nous allons maintenant nous poser la question des sources d'informations sur ce sujet.
Nous allons rejoindre Jean-Félix Bernard, le président d'Air Paris. Bonjour.
Bonjour.
La pollution aujourd'hui à Paris, en région parisienne, qu'est-ce que ça donne ?
On avait annoncé que la pollution, l'épisode anticyclonique n'était pas tout à fait fini. Nous avons encore des hautes pressions, mais c'est vrai.
Lundi matin, avec Jean-Jacques Bourdin sur BFM Télé, le directeur général d'Air Paris, Jean-Félix Bernard. Air Paris, c'est cette agence, il y en a 26 autres, je crois, dans les différentes régions de France qui mesurent quotidiennement la qualité de l'air à Paris. Karine Lelouet, Véronique Robérot, Erwan Benezet, est-ce que c'est une source fiable, Air Paris ? Est-ce qu'on peut faire confiance à ces relevés sur les particules, sur l'oxyde d'azote, etc.
Juste ce qui m'amuse, bon, on l'a coupé donc on n'a pas la suite, mais on a l'impression qu'en fait il donne un bulletin météo et il parle vraiment de la qualité de l'air, il est en train de parler de l'anticyclone.
C'est parce qu'il est considéré comme ça au début par Jean-Jacques Bourdin aussi. Mais...
Oui, mais c'est pour moi, ça illustre quelque chose de... Alors, Air Paris est une source intéressante d'information. Mais à partir du moment où on se repose sur... Parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé sur plusieurs jours, sur les conditions météorologiques pour mettre en avant le problème de la pollution, on ne fait que détourner le problème.
D'ailleurs, dans des chaînes de télé, je ne sais pas si... Le problème de la pollution a été abordé à la fois au milieu du journal... et à la fois dans les bulletins météo. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il y avait quelquefois une confusion, les gens ne savaient pas trop où le mettre. Tout d'un coup, il y avait la carte météo qui apparaissait, et il y avait monsieur ou madame météo qui se remettaient à parler des problèmes de pollution, de l'anticyclone, etc. On a l'impression qu'il y avait une confusion, on ne savait pas comment classer cet événement.
Et vous avez plein de personnes qui se lèvent le matin et qui disent « mince, il fait beau, je ne vais pas aller courir ».
Mais si je pose cette question-là, c'est aussi parce qu'on voit bien que dans certains domaines, je ne sais pas, la délinquance, le chômage, les statistiques, les chiffres sont contestés et contestables. Est-ce qu'en la matière, on a un référent qui est incontestable pour pouvoir évaluer aussi bien la pollution en tant que telle que pour évaluer les effets des mesures que l'on applique pour limiter la pollution.
Alors, il peut le devenir assez rapidement pour peu qu'on fasse un peu son travail, c'est-à-dire de ne pas s'appuyer sur une seule source. On a quand même aujourd'hui plusieurs sources d'informations sur les chiffres qui donnent des éléments qui sont fiables. Je vous citais tout à l'heure l'OMS, c'était une grande étude, le chiffre des 42 000 est sorti. Voilà, c'était aujourd'hui on a aussi les proportions de sources de pollution, les feux de, voilà, effectivement tout à coup on parle des feux de cheminée depuis un an. Ça c'est fiable. En revanche, ce qui peut être problématique, c'est l'interprétation qu'on en fait de ces chiffres. Et puis ensuite, c'est dans la recherche des solutions. Juste un exemple le plus parlant, mais c'est qu'aujourd'hui, on peut vraiment tout à fait mesurer le fait que le diesel pollue. Et puis ensuite, derrière, il y a tout un travail de communication de la part de certains lobbies pour expliquer que, bah oui, certes, ces chiffres sont bons, mais que, etc.
Alors, on va prendre un exemple simple sur l'interprétation et sur la question des lobbies. Et je crois que c'est l'Association des Automobile Clubs cette semaine qui disait la pollution automobile compte pour 20 ou 25% de la pollution atmosphérique, mais ça, c'est vrai à l'échelle nationale, mais si on est sur les grands centres urbains, là, on est sur beaucoup plus, c'est ça ? Alors, on est sur 50 ou 60%, c'est ça ?
Alors, il y a différentes choses dans cette affirmation qui sont fausses. Il y a d'abord, effectivement, le fait que, voilà, si on se concentre sur une échelle beaucoup plus petite, et en particulier si on se met à côté du périphérique ou de grands axes routiers, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens ou de gens d'agglomération parisienne qui vivent près d'axes routiers, on est avec une proportion...
60%.
Ouais, c'est
60%
ça.
De la pollution atmosphérique est liée à la pollution automobile dans ces zones-là.
Et même liée au diesel.
Et même liée au diesel. Donc déjà, il y a cette chose-là qui est importante à rappeler. Et puis surtout, donc, eux, ils comparaient ça avec des feux de cheminée. Mais en fait, il faut faire attention parce que ils parlaient des particules fines en particulier. Et les particules fines, il y a les émissions directes de particules fines qui sont liées au diesel. Donc effectivement, le trafic routier, si on prend à l'échelle nationale, ça va être de l'ordre de 20 ou 23%. Mais le diesel émet aussi ce qu'on appelle du NO2, qui est du dioxyde d'azote. Et c'est c'est un gaz précurseur qui, après une réaction chimique, va former des particules. Donc à nouveau, et là, c'est essentiellement le diesel et c'est essentiellement les automobiles qui sont à la source de ces émissions-là. Et peu de gens ont parlé de l'importance de ce gaz pendant cet épisode de pollution. Et si on regarde les cartes Prévert, qui sont des cartes qui sont mises à disposition, qui montrent, on a aussi un pic de NO2 et de NOx pendant ce même épisode. Et il faut surajouter en fait cette influence pour la création de particules fines.
Donc on voit bien là, Véronique Reberot, ce que disait Erwan Benezet, c'est-à-dire qu'il y a non seulement les chiffres et les statistiques qu'on peut trouver, mais il y a aussi la question de la façon dont on interprète ces
Absolument.
Chiffres.
Ouais.
Sur ce sujet-là, c'est crucial quand même.
Absolument.
Juste sur cette association qui vers le chiffre, elle a dit que 25%. Mais en fait, 25%, c'est gigantesque. C'est déjà un quart de la source de pollution. C'est énorme.
Enfin, si on dit c'est la même chose que les feux de cheminée, ça devient problématique parce qu'on dit on arrête toutes les feux de cheminée et puis on aura résolu un quart du problème.
C'est facile. On a une solution pour le diesel. On va dire on fait circulation alternée pour les activités agricoles, puisqu'il y a aussi les activités agricoles. Le ministre, d'ailleurs, dit à un moment dans un discours, et puis je demande aux agriculteurs de différer leurs travaux dans les champs, l'épandage, s'ils le peuvent, même s'il fait beau et c'est le moment, mais s'il vous plaît. Quoi.
Et pour les feux de cheminée, il y a un décret qui est à l'étude, qui sortirait en 2015, qui interdirait les feux de cheminée en toute l'île de France, c'est je crois 12 000 foyers, pour les cheminées à foyer ouvert. Donc c'est pas rien.
C'est pas rien. Ouais. Sur cette question des sources, Éric Chavreau, je me tourne à nouveau vers vous, parce qu'on sait que le multimédia, on l'a souvent souligné ici même, rime avec open data, donc données librement disponibles. Est-ce que c'est le cas sur ces questions de pollution ? Autrement dit, est-ce qu'il y a, grâce à Internet, de nouvelles sources d'informations, à la fois pour le journaliste et pour le grand public ? Pour prendre un exemple simple, est-ce que chacun de nous peut, outil multimédia aidant, faire son petit calcul perso de sa pollution, de la pollution qui l'environne ?
En tout cas, c'est l'idée qui a commencé à naître il y a environ 2 ans, grâce à des outils ouverts à tous, pour publier donc ça en ligne sur une carte interactive, idée qui a été pensée en complément des relevés officiels, parce qu'il ne s'agit pas de les contester, hein, il s'agit vraiment de les compléter, et avec la volonté affirmée de montrer que tout un chacun peut se mobiliser à ce sujet, et aussi pour sensibiliser, montrer, affirmer aux politiques que on peut contrôler ces données. Hein. Cette idée, elle vient de l'association Labo Citoyen. Elle a été épaulée par une autre association qui s'appelle Respire, avant d'elle-même développer un projet en cours. Très concrètement, au cœur de tout ça, il y a des capteurs citoyens. Alors ça ressemble à quoi ? C'est comme des boîtiers électriques avec quelques composants dedans. au niveau du matériel, c'est relativement cher, hein, c'est 400 euros, mais ça va peut-être diminuer sur les prix, puisque, encore une fois, c'est en open source, c'est-à-dire que tout à chacun peut participer à l'amélioration de la chose.
Donc, et par exemple, cette association, leur idée, c'est d'en installer des capteurs comme ça dans plusieurs villes de France, c'est ça l'idée ?
Voilà, c'est d'ici la fin de l'année. Alors, ils visent Paris, Nantes, Lille, Bordeaux ou Marseille. Pourquoi pas sur le toit d'une école, enfin des lieux un peu symboliques, un stade. Et à la fin de l'année, mettre ça en ligne avec une carte interactive qui recenserait tous les résultats recueillis un peu partout par les citoyens, c'est le mot-clé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'association a recueilli le soutien financier d'un sénateur écologiste, donc ça les encourage. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a vraiment que quelques rares personnes qui se sont portées candidates, qui se sont manifestées. Mais l'association, ça n'a pas entamé sa confiance, puisqu'elle vient d'emporter une victoire quand même importante. C'est-à-dire que là, après 6 mois de bataille, elle a réussi à recueillir toutes les données informatiques publiques sur ces questions-là, pour pouvoir justement les intégrer aussi dans la carte. Et ce n'est pas une mince affaire, puisqu'il y a eu des problèmes informatiques, mais il y a eu aussi beaucoup de réticence de la part de ses interlocuteurs, même si, encore une fois, ces données étaient tout à fait publiques.
Karine Lelouette de Torre Echo, Erwan Benezet du Parisien aujourd'hui en France et Véronique Rebérotte de France Culture sont ce matin dans le secret des sources pour analyser le traitement médiatique de la pollution, l'épisode de pollution atmosphérique et de circulation alternée à Paris. Et dans un instant, nous allons écouter et entendre le regard et l'analyse de la sémiologue Mariette Darigrand. Respire, c'est le nom de cette association dont vous parlez à l'instant Éric Chavroux, et aussi le titre de cette chanson de Mickey 3D.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien, la nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer, les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière, on a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire.
Mickey 3D, respire. Mariette Darigrand, on va s'attarder avec vous sur le thème, le mot, j'avais de dire le personnage mythique quasiment derrière tout ce débat, c'est climat. Mais peut-être d'abord, votre regard sur ce traitement journalistique de cet épisode de pollution, est-ce que pour vous c'était satisfaisant ou pas ce qu'ont fait les médias? Est-ce que ça témoignait d'un intérêt réel des médias pour le sujet de fond? Comment vous avez regardé ça?
Il me semble que ça illustrait plutôt le manque d'intérêt général des médias, là sur ce cas, disons, emblématique. Parce que qu'est-ce qu'on voit quand les médias traitent un pic, comme on dit, un épisode, hein, c'est-à-dire un événement qui serait simplement éphémère, alors que vous avez bien expliqué que c'était du long terme, enfin du contextuel. Il y a un peu deux dérives, hein, il me semble. Il y a une dérive dans le tout petit, le microclimat, si on ose dire, c'est-à-dire ce que vous avez appelé l'info de service tout d'un coup, c'est, voilà, et on envoie un envoyé spécial sur le pont du périph' pour savoir si demain, les gens pourront aller avec leur voiture, etc. C'est du service et quasiment de la météo. Il y a eu un amalgame absolu avec la météo, vous l'avez bien expliqué. Donc c'est une réduction en quelque sorte par le bas, le toute petite focale qui n'est pas au niveau de la problématique politique que ça pose. Et deuxième manière, c'est l'inverse, c'est au contraire une sorte d'exagération de la chose, mais par l'imaginaire. Parce que le climat fait partie, c'est en effet un personnage médiatique récurrent, très important de notre monde, de notre contexte. Et en fait, par exemple, c'est une illustration de la crise. Hein, la crise qui est une grande tempête, tout le vocabulaire de la crise emprunte au climat. Ce qui fait que le pauvre climat n'a plus son propre vocabulaire. Il est métaphorisé malgré lui. Donc le climat devient le synonyme de tout ce qui est déréglé dans notre monde. Le monde financier, le monde éventuellement politique, l'école, enfin tout est, si vous voulez. Et il est très difficile aux questions proprement climatiques d'exister dans cette pensée générale du climat négatif.
On fait porter au climat des choses qui n'ont rien à voir avec lui.
Oui, c'est ça. Il est là pour métaphoriser l'ensemble des dérèglements. Et donc, parmi ces dérèglements, il y a éventuellement le dérèglement climatique. Mais on y arrive tard et c'est très difficile de l'expliquer dans sa technicité.
Alors, il y a quelque chose d'intéressant pour rebondir sur ce que vous dites, c'est qu'on est en présence aussi d'un mot, un mot un peu valise, le mot climat. Il est utilisé à toutes les sauces. On va prendre un exemple très court.
Vous savez, il y a plutôt des bonnes nouvelles. Je vais vous en donner une qui sortira demain de la part de l'INSEE. Le climat des affaires, comme on dit.
On ne va pas l'écouter plus que ça, parce que là encore, on va se faire taper sur les doigts par le CSA en cette veille de scrutin. Bon, vous l'aurez compris, de toute façon, c'est une simple archive. Ça remonte à 8-9 mois, sans aucun rapport avec le vote de demain, évidemment. C'est juste un exemple parmi des dizaines d'autres pour qu'on se fasse bien comprendre, pour illustrer notre propos, pour montrer l'utilisation à toutes les sauces de ce mot climat. Là, c'était donc le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, parlant du climat des affaires. Mais on a ça sur climat politique, climat délétère. Climat de suspicion, que sais-je, il est à toutes les sauces.
Exactement, c'est dans notre langue, alors c'est un signe que la notion se galvaude, en quelque sorte, qu'elle n'existe pas en tant que telle, elle est mise à toutes les sauces, elle est dépossédée de sa propre existence. C'est comme si les problématiques du climat, qui sont intenses, qui sont techniques, qui touchent à la santé, etc., étaient quand même, globalement, évidemment, il y a des endroits où on les traite, mais globalement évacuées, au profit d'une généralisation des règlements climatiques. Mais l'histoire du mot est intéressante pour ça. Ça explique un peu quelque chose, je pense, c'est qu'il y a une mémoire du négatif avec le mot climat. Depuis que le climat est entré dans la langue française et même la langue anglaise, le climat est négatif, c'est une courbe descendante, c'est quelque chose qui nous entraîne vers le bas. D'ailleurs, c'est un mot frère avec le mot déclin, qui vient du grec klinein. Le climat, c'est ce qui tombe, ce qui décline pour la société. Après l'Antiquité. Dans l'Antiquité, c'est bien d'avoir quelque chose qui fait une courbe au-dessus de sa tête, parce que c'est les dieux de l'Olympe, et puis nous, en dessous, hommes de l'Antiquité, on a notre place. Mais à partir du moment où on quitte la Théodicée, on quitte ça, le climat devient ce qui nous plombe, ce qui descend, ce qui nous ramène vers le bas.
Alors, voilà. Est-ce que ça vous fait réagir, Erwan Bédéza, Karine Lelouette, Véronique Rebérotte, et aussi cette idée de la tentation des médias d'être sur la focale trop petite ou la focale presque trop lourde, trop symbolique, trop forte.
Alors, Erwan Bédéza. Moi, ce qui me fait réagir, c'est que, en fait, la raison pour laquelle aujourd'hui le climat, ça me fait penser à Sartre qui disait l'enfer, c'est les autres. Et alors que là, en fait, on pourrait presque dire l'enfer, c'est le climat. Mais parce qu'en fait, depuis deux siècles, c'est tout petit par rapport à l'échelle de l'humanité, depuis deux siècles, il y a eu un bouleversement incroyable. C'est qu'avant, le climat existait par lui-même. Aujourd'hui, le climat est quasiment un instrument de l'homme. Il est façonné par l'homme du fait de la révolution industrielle, puis aujourd'hui de toutes ses conséquences. Et donc, finalement, l'enfer, c'est le climat. Quand on se lève le matin, donc on peut pas aller faire son jogging parce que ça va nous faire plus de mal que de bien. Mais le climat tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'on le connaît, c'est l'homme. Et c'est aussi pour ça que l'impact est si important. Et c'est pour ça que lors d'un pic de pollution, on se rend compte pour nous, petits Français et notamment petits Parisiens, mais pas que, que finalement, c'est pas que à Pékin ou que c'est pas que dans les grandes mines de charbon d'Allemagne ou ailleurs qu'il y a des dérèglements climatiques. C'est aujourd'hui, ça nous touche ici, nous, chez nous.
Mais est-ce que vraiment les médias font suffisamment la focale du milieu, pour reprendre l'image de Darry Grand, c'est-à-dire de faire de la vraie pédagogie sur les causes de la pollution, etc. Enfin, des vrais sujets, quoi. Pas la focale du milieu.
On est passé à...
Ni la métaphore absolue, ni le tout petit, le pot d'échappement de l'automobiliste.
On est passé à est-ce que les médias en font trop, à est-ce que les médias font la focale du milieu, enfin, font suffisamment le milieu, est-ce qu'on va en faire assez? Parce que finalement, ce que ça illustre, c'est que face à une problématique aussi importante, peut-être qu'on n'en fait jamais assez.
Karine Lelouette. Les analyses quantitatives, il y en a dans la presse sur ce sujet-là, montrent quand même qu'en l'espace de 10-15 ans, il y a beaucoup plus de production journalistique sur le sujet qu'il y a 15 ans. Quand même.
Sur le climat, oui, c'est net, en général.
Alors, oui. Et sur la pollution.
Moi, je vous corrigerai un petit peu là-dessus. Sur le climat, en tout cas, nous, on est sortis en kiosque, donc Terra Eco, on est sortis en kiosque en 2009. On est sortis deux ans après le Grenelle de l'environnement, à un moment où il y avait un vrai boom de ces questions-là, développement durable, etc. Et là, on observe une vraie descente, un vrai désintérêt pour ces questions, que ce soit dans les enquêtes d'opinion,
relégué à l'arrière-plan par la crise économique.
Ouais, tout à fait. Ou dans le discours politique. Oui. Et donc dire que il y a des questions qui sont abordées, mais par des petits bouts. Vous allez avoir des gens qui vont parler de consommation collaborative, de mieux vivre, de bien-être, de bio. Ça va passer par d'autres vecteurs qui participent aussi à la question climatique, qui participent à la résoudre ou au contraire à la rendre pire. Mais en tout cas, ça passe pas forcément par ces grosses questions du climat ou de lutter contre le réchauffement climatique.
Pour prolonger ce que vous dites, il y avait un entretien intéressant cette semaine dans Libération, je crois, de Pierre Adam, l'ancien patron de l'ADEME, qui disait, en résumé, enfin, il y avait plusieurs choses dans l'interview, mais il disait les mentalités des citoyens, de façon plus ou moins consciente ou inconsciente, progressent plus vite qu'on ne croit en même temps sur ces sujets-là.
Oui, il y a un vrai phénomène de, pas faire un anglicisme, de grassroots. Donc plutôt que d'avoir en gros des politiques, parce que les politiques vont pas assez vite aussi, hein, donc plutôt que d'avoir des décrets, des lois en gros qui sont pas suffisantes et qui seraient imposées par la communauté internationale ou par le gouvernement, et ben les citoyens ont décidé de se prendre en main en quelque sorte leur destin, mais sans s'attaquer à la grande question climatique, mais plus, encore une fois, en changeant leur mode de vie, parce qu'aussi c'est plus économique, souvent, parce qu'on vit mieux aussi.
Ce que ne repère pas toujours, enfin ce que peut repérer la presse spécialisée, mais pas nécessairement la presse généraliste d'ailleurs, cette évolution de...
Alors là aussi, c'est pareil, je vous corrige un tout petit peu.
Allez-y.
Non, moi, sur l'épisode de circulation alternée, ça a quand même fonctionné. Enfin, on a vu qu'il y avait une vraie réponse.
Oui, il n'y avait pas la révolution dans les rues parce qu'il y avait une journée de circulation.
Il n'y avait pas la révolution, les gens se sont sentis concernés, on fait l'effort d'eux. Voilà. Ce qui aurait été intéressant, c'est de faire une deuxième journée aussi, voir si ça pouvait aussi tenir sur la durée, parce qu'il y aura d'autres journées de circulation alternée en attendant qu'à l'horizon d'une dizaine d'années, peut-être, on ait des voitures plus propres, on ait une fiscalité qui soit moins avantageuse pour le diesel, tout ça, ça reviendra, ces mesures d'urgence et ponctuelles face à une pollution chronique et récurrente.
Et puis il y a aussi des
Alors,
gens...
Karine Lelouette et après Marie Darigon.
Il y a aussi des gens qui se sont... qui ont été sacrément contents que les vélos soient gratuits, que les autolibs soient gratuits, que les transports publics soient gratuits, pas seulement à Paris d'ailleurs, dans certaines autres villes de France, et qui se sont aussi posé la question, et les médias parfois l'ont relayé, est-ce que un jour les transports publics pourraient pas, dans certaines villes, devenir complètement gratuits? Ça existe à Aubagne, par exemple, ça existe dans d'autres villes. Et ces questions-là, on peut un peu émerger d'un droit du transport autre que le droit à la voiture particulière.
Marianne Darigrand, oui, tout le monde veut réagir,
par ordre d'apparition à l'écran. L'épisode a fait émerger une information qui a été assez peu mise en valeur, mais qui était très importante, c'est-à-dire, effectivement, ça a marché, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que les Français ont... On le voit là, à l'occasion de ce genre de choses, ont basculé dans le conscious living. Ils ont envie de vivre mieux en faisant des efforts. Et les gens ont marché dans Paris. On a vu des choses, les vélos, la marche. Donc ça va influer et certainement amener les médias à parler un peu. Ils sont un peu en retard là.
En même temps, le discours climato-sceptique, il a quand même pas disparu du tout, y compris dans les médias. C'est pas quelque chose qui a disparu du paysage. Il est toujours là, il est relayé dans les médias.
On avait l'impression que les médias étaient en retard. Moi, j'ai vu des sujets aussi à la télévision. On nous expliquait comment frauder, comment rouler quand même, comment louer une carte, une plaque d'immatriculation paire. Mieux, retour sur le plateau, on expliquait, mais ça va vous coûter 30 euros de louer une plaque paire. Il vaut mieux payer 22. Oui. Et on était choqués par ça. Moi, j'ai entendu des gens qui disaient, mais ils n'en étaient pas là. Ils avaient envie, encore une fois, de faire l'effort.
Est-ce que vous avez la sensation, les uns les autres, qu'il y a une spécificité française quand même sur le sujet? On sait que la France n'est pas un très bon élève en Europe sur la question de la pollution atmosphérique. Est-ce qu'il faut y voir, pour vous, l'influence, y compris à travers les médias, pour faire court, du lobby automobile? Erwan Benezet.
Aujourd'hui, il y a deux lobbies qui pèsent, et à la fois sur le gouvernement, mais aussi parfois sur le traitement des médias. C'est effectivement les constructeurs et les transporteurs routiers. Et ce sont les deux lobbies qui vraiment... sur les médias, quand ils en ont les moyens, effectivement, ça sera pas, les lobbies ne vont pas intervenir de manière directe, mais c'est après sur les éléments de langage, sur les exemples à donner, sur comment on détourne l'attention pour en fait, voilà, et donc notamment sur le diesel. Le constructeur quasi champion du monde de diesel, c'est PSA. Et alors vous parliez aujourd'hui
secteur hautement subventionné en France, hein, je sais plus, c'est 7 milliards, c'est ça, d'euros par an.
D'avantages fiscaux.
D'avantages sur le diesel.
Voilà. Et on est quand même le seul pays avec le seul constructeur, je crois, il faut à vérifier, qui fabrique un hybride diesel. À quoi ça sert aujourd'hui? Enfin, là, oui, on peut parler de spécificité française.
Karine Lelouette, vous avez cette sensation que, y compris les médias, font le jeu de ce lobby du diesel?
J'ai pas dit qu'ils faisaient le jeu. Hein.
Mais c'est pour ça que je pose la question suivante, si j'ose dire.
J'ai du mal à vous dire, est-ce que les médias en général font le jeu du diesel? Le fait que le diesel est une spécificité française, ça on le sait tous, ça a été démontré. C'est même hyper intéressant quand on analyse un peu l'histoire et qu'on comprend pourquoi on est les seuls en Europe, sinon au monde, à avoir un parc
de 67%
de véhicules diesel. Tout simplement parce qu'à un moment donné, le gouvernement a voulu favoriser des raffineries qui en gros perdaient parce que tout d'un coup on avait du chauffage électrique et plus du chauffage au fioul et qui donc en échange leur ont dit on va vous favoriser un peu on va vous donner en échange en fait le fait d'avoir une fiscalité avantageuse sur le diesel et de vous rattraper là-dessus et donc on s'est engagé là-dedans, on a un bonus malus qui favorise aussi les véhicules diesel, donc là-dessus c'est une évidence. Donc c'est peut-être, alors de vous dire que les médias en tout cas, les gens sont tellement habitués aux véhicules diesel, au fait que ça coûte moins cher, que forcément, c'est rentré un peu dans les mœurs. Et les médias sont aussi des citoyens et les médias ont aussi.
Et les journalistes ont aussi des voitures.
Et les journalistes ont aussi des voitures.
Il y a eu des ministres de l'Environnement qui avaient des véhicules diesel.
Donc je pense qu'il y a une influence. Mais
ils le font Véronique aussi par Robert. Le biais de la publicité qu'on voit aussi dans les médias, que ce soit à la télévision ou dans la presse écrite, où parfois aussi on voit avec de beaux articles sur le danger d'eux. Et à côté, des publicités, on en a vu beaucoup ces dernières années, de véhicules plus propres que ça, c'est pas possible, qui carrément purifient l'air quasiment en roulant, des 4x4 verts, on a quand même ça, c'est assez impressionnant de voir à quel point les constructeurs ont réussi, alors là c'est à travers des médias, la presse et des journaux, à nous faire croire qu'on pouvait rouler très très vert et de plus en plus vert. Mais c'est vrai, mais tout en polluant quand même.
Vous avez l'impression vraiment qu'il y a une spécificité française là-dessus?
Il y a eu des coups médiatiques assez forts sur les filtres à particules, par exemple. Les filtres à particules ont été une espèce d'invention dont on a voulu dire les filtres à particules, c'est génial, rien ne passe, c'est plus propre que propre. Oui, mais alors encore une fois, je reviens un peu en arrière, mais il y a aussi des véhicules qui avaient des filtres particules géniaux, mais qui produisait beaucoup plus, encore une fois, de NOx et qui empoisonnait différemment les citoyens.
Et c'est là où les journalistes peuvent apporter leur contribution, c'est que tout à coup, boum, depuis les années 2000, filtre à particules, très bien. Ça... Mais derrière, c'est se poser plusieurs questions. On tape d'abord rappeler qu'aujourd'hui, c'est quand même... Il y a un tiers du parc automobile diesel qui est équipé de filtres à particules, donc il en reste encore deux tiers, qui polluent énormément. Mais il y a ensuite ces filtres à particules, combien de temps ils fonctionnent, comment ils fonctionnent, où vont ces particules, est-ce qu'elles sont brûlées ou pas. Vous avez tous vu un véhicule diesel, y compris équipé d'un filtre à particules, qui au démarrage, quand le feu se met au vert,
crache un nuage de fumée.
Et même ces filtres à particules, le jour où les voitures partent à la casse, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là où les journalistes peuvent apporter leur contribution en enquêtant là-dessus. Et la difficulté des lobbies, c'est pas forcément de raconter des histoires, mais c'est juste de rendre plus compliqué l'investigation qui permet d'apporter ces réponses. C'est là où il bloque un petit peu l'information.
Il y a un dernier point que je souhaiterais voir aborder, c'est qu'on est quand même frappé aussi par ces derniers jours par le côté quand même très franco-français des articles ou des reportages qu'on a lus. On va dire que 90 ou 95% de ce qui a été publié ou diffusé parlait de la France, alors que la limitation du trafic automobile, on le disait tout à l'heure, existe dans près de 200 villes en Europe. On va prendre un exemple simple.
The then mayor Ken Livingstone pushed it through. He says it should now be used to tackle pollution and thinks the congestion charge is a success.
I didn't do it because I wanted to.
Un reportage de la BBC l'an dernier pour évoquer les 10 ans, bien dit 10 ans déjà, de l'entrée en vigueur de la taxe urbaine, la congestion charge à Londres, qui a fluidifié le trafic et dont l'ancien maire Ken Livingstone, on l'entendait là, dit dans ce reportage qu'elle doit désormais avoir pour vocation aussi de lutter contre la pollution. Alors Athènes, Rome, Berlin, Stockholm, Oslo, enfin on pourrait multiplier les exemples. C'est des possibilités de reportage infinies aussi. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça des reportages sur les grandes villes étrangères.
On ne peut pas reprocher aux médias français, à un moment où il y a un pic de pollution en France, de se focaliser sur...
Savoir comment ça marche ailleurs, pour savoir si ça marche ou pas,
ça se fait en permanence. On parlait du smog de Los Angeles dans les années 80, on parle aujourd'hui de la pollution à Pékin, et on revient régulièrement dessus, y compris cet hiver où l'épisode a été très très marquant. On a parlé de la pollution qui avait lieu à Athènes, alors là, pour le coup, c'était automobile, mais il y avait aussi les feux de bois, puisque avec la crise économique, ils allaient couper du bois dans les forêts, et ils se faisaient des feux feu pour se chauffer. Enfin, voilà, ce genre de reportages, on les voit régulièrement. Quand même.
Quand je dis des reportages, c'est aussi potentiellement pour dire que ça ne marche pas nécessairement formidablement bien ou que du moins, on ne sait pas trop si ça marche ou pas. Par exemple, à Rome, je n'ai pas l'impression que les bilans soient très, très clairs sur les mesures.
Oui.
Non, Karine Leloët.
En Grèce, c'est là, pour le coup, les médias sont un peu allés voir ailleurs au moment de la mise en place. En tout cas, je crois que j'ai vu un papier du Monde sur la circulation alternée comparé d'abord à l'épisode de 97, où ça avait déjà été mis en place en France, où on avait observé une petite amélioration, et puis comparé à l'Italie et à la Grèce. Mais là, on a plus effectivement observé des fraudes, une fraude organisée en Grèce avec l'achat de véhicules, les Italiens qui se sont plutôt mis aux deux roues. C'était effectivement très, très mesuré, mais pour le coup, j'ai l'impression, en tout cas, que les médias sont quand même allés voir au contour, ou en tout cas de cet épisode, en regardant les autres exemples européens.
Et c'était une très, très bonne chose, justement, d'aller voir ailleurs ce qui s'y passait, de revenir en disant...
Voir voir ce qui marche et ce qui ne marche pas aussi.
La circulation alternée, peut-être, mais peut-être...
Il faut limiter la vitesse.
Peut-être qu'une ZAPA, les fameuses ZAPA qu'on a abandonnées, qui étaient prévues dans le Grenelle et qui ont été abandonnées par Delphine Bateau, peut-être que c'est aussi le moment de reconsidérer.
Des portiques écotaxes, peut-être aussi, faudrait peut-être réactualiser tout ça.
Qui ont été enterrées pour l'instant, pour des raisons en grande partie politiques. On verra ce qu'il en advient après les élections municipales européennes. Merci à tous. Place au clin d'œil final du secret des sources. Yacine Bouzard, comme toujours, a le dernier mot. Et ce matin, il applique le principe de la circulation alternée à l'information.
Donc allons-y pour cette conférence de prévision hebdomadaire pour l'actualité de la semaine prochaine.
On est prêt.
On est prêt.
Alors on n'oublie pas la règle. Les jours pairs, mauvaises nouvelles. Et les jours impairs, les bonnes nouvelles. Donc je vous écoute. Lundi 24.
Le lundi, il y a l'usine PSA de Poissy. Arrêt d'une équipe de production. Ça va entraîner la suppression de 684 postes sur le site.
Ok, on prend.
25e anniversaire de la catastrophe pétrolière de l'Exxon Valdez en Alaska.
Ah oui.
Et puis, en cyclisme, il y a le début du Tour de Catalogne.
Ah ça, c'est une bonne nouvelle. On a dit les jours pairs, les mauvaises nouvelles.
Ah ouais, pardon.
Bon, on passe au mardi 25. On n'oublie pas la règle. Hein. Jour impair, bonne nouvelle.
À Doha, au Qatar, il y a le 11e forum du dialogue interreligieux.
Ok.
Il y a aussi la remise de la Légion d'honneur à Béatrice Idiard-Chamois, sage-femme handicapée à l'Institut mutualiste Montsouris de Paris.
Oui, ça c'est une bonne nouvelle, c'est bien. Donc on passe au mercredi 26.
Le début de la semaine de prévention des troubles musculo-squelettiques.
Ah non, on a dit jour pair, mauvaise nouvelle.
Pardon chef.
Et ce mercredi, on prévoit de fortes pluies.
Mais c'est une bonne nouvelle.
Mais non, c'est une mauvaise nouvelle.
Mais t'as pensé aux agriculteurs?
Et s'il y a des inondations?
Bonne nouvelle.
Mauvaise nouvelle.
Bonne.
Mauvaise.
Bonne.
Mauvaise.
Stop, on m'arrête là. Puisqu'on ne sait pas si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise nouvelle, on ne donne pas l'info, ça sera plus simple.
Le clin d'œil de Yacine Bouzard avec la complicité de Cyril Bayer, Marine de la Moissonnière et Stéphane Robert. La pollution à Paris, gadget médiatique ou effort pédagogique, vous commentez comme toujours sur franceculture.fr où le secret des sources est aussi en réécoute et en podcast. Karine Leloët, Erwan Benezet, Véronique Rebérotte, Éric Chavroux, Mariette Darigrand étaient ce matin dans Le Secret. Merci à tous. Dans quelques minutes après le journal d'Amélie Bonté, réplique sur France Culture. Ce matin, quel est le goût de la vie à deux? Alain Finkielkraut reçoit Pascal Bruckner et Claude Habib. Prenez soin de vous.
Mais où est passée la Tour Eiffel? Se sont demandés quantité de médias et d'internautes face à ces images. Images du 13 mars en particulier, un Paris aux airs de Pékin, totalement recouvert d'un voile jaune, marron, gris, oppressant.
Terra Eco, on est sorti en kiosque en 2009, on est sorti 2 ans après le Grenelle de l'environnement, à un moment où il y avait un vrai boom de ces questions-là, développement durable, etc. Et là, on observe un vrai désintérêt pour ces questions, que ce soit dans les enquêtes d'opinion. Il y a des questions qui sont abordées, mais par des petits bouts.
On est passé à est-ce que les médias en font trop, à est-ce que les médias font suffisamment le milieu, et bientôt, est-ce qu'on va en faire assez? Parce que finalement, ce que ça illustre, c'est que face à une problématique aussi importante, peut-être qu'on n'en fait jamais assez.